Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre place. Bien, si vous voulez bien, on va pouvoir commencer. C'est une joie de se retrouver ici tous les dimanches, entre frères et sœurs, avec la certitude que notre Dieu nous a précédés en ce lieu. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux et remettre ce temps de culte dans la prière. Seigneur, quel privilège quand nous y réfléchissons que tu sois au milieu de nous, dimanche après dimanche, pour nous parler, pour nous habiter de ton esprit, pour nous réconforter, pour nous enseigner, pour nous accompagner. Seigneur, nous voulons penser à notre église locale, à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, mais plus généralement à tous tes enfants, qui se réunissent pour t'honorer, pour t'adorer, pour te louer, pour être enseignés de toi aussi. Et nous voulons avoir une pensée particulière, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de ton réconfort, que tu puisses être auprès d'eux particulièrement ce matin, en ton nom. Amen. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue, que ce soit des habitués, des gens de passage. On a la famille Sutherland qui est bien représentée ce matin. Saluer Mustapha aussi qui est avec nous. Que Dieu te bénisse aussi et te garde dans ta santé. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes de passage que je n'aurais pas remarqué? Si, simplement, vous pouvez vous lever, vous dire d'où vous venez. Oui. Haute-Savoie. Bienvenue parmi nous. Ok. Vous êtes les bienvenus aussi. Même si je ne suis pas lyonnais d'origine, et quand on n'est pas lyonnais d'origine, on sent qu'entre Paris et Lyon, il y a quand même une petite rivalité. Je vous propose de commencer ce culte par deux cantiques. Le premier, c'est le 428 dans J'aime, j'entre dans tes portes. Et nous poursuivrons avec le 42 dans À toi la gloire, c'est vers toi que je me tourne. Donc, on veut consacrer ce temps à entrer dans ce temps de culte. On m'a signalé également la présence d'Annabelle et de quelques membres de sa famille. Je ne l'ai pas repéré encore. Voilà, si, là-bas. Alors, dis à ta famille aussi qu'elle est la bienvenue parmi nous et on est content de te revoir. Alors, le culte de ce matin sera un peu particulier, en ce sens qu'on m'a demandé de faire la présidence et le message. Et j'ai été conduit à changer l'ordre habituel du culte, c'est-à-dire qu'il y aura tout d'abord un temps qui s'adressera plus particulièrement aux enfants, puis la prédication, qui, dans mon esprit, devrait nous aider à alimenter le temps de louange qui suivra, et enfin, nous aurons la scène et le temps d'annonce. Le fil conducteur du culte ce matin, c'est ce verset de 1 Corinthiens 12. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Alors, si vous vous souvenez, on a eu toute une série de prédications sur la première épître aux Corinthiens. Et David, qui est avec nous ce matin, avait eu le redoutable honneur de présenter en une fois les chapitres 11, 12, 13 et 14. Donc, sans mettre en doute les qualités de David, il a dû faire des choix et il n'a pas pu être complet, ça c'est clair. Donc, j'ai fait le choix ce matin de revenir un peu sur 1 Corinthiens 12 et plus particulièrement sur cet aspect-là. Je m'adresse tout d'abord aux enfants. Est-ce que vous reconnaissez ce petit personnage en haut à gauche de l'image? Oui? C'est Punchinello. Eh bien, on va voir ce matin une deuxième histoire de Punchinello. Alors, qui c'est Punchinello? C'est un petit garçon? Non, c'est un petit personnage en bois. Tout à fait. Et là, on va voir qu'il lui arrive encore une histoire. Punchinello, c'est un Vémiche, c'est comme ça qu'on appelle ces petits personnages en bois, et c'est la fête à Vémicheville. On a installé une grande banderole à l'entrée du village sur laquelle on a écrit en grand « Vémicheville souhaite la bienvenue à Mademoiselle et la meilleure de tous ». Drôle de nom, hein. La femme du maire s'écria « Quelle merveilleuse journée! Qui aurait pu croire qu'une personne aussi célèbre vienne dans notre village? Savez-vous ce qu'on dit ? On dit qu'elle est la meilleure de tous les Vémiches. » Mais pourquoi vient-elle ? Demanda Punchinello. Elle vient choisir des membres pour le club des Vémiches exceptionnels. Soudain, le Vémiche veilleur cria « La voilà ! La voilà !» Tout le monde se précipita à l'entrée du village. Un soldat de bois en uniforme ouvrit un rouleau et lut d'une voix forte « Taillé dans la forêt la plus distinguée, sculpté dans l'arbre le plus costaud, pleine de sève, uniquement la plus raffinée. Elle est aussi issue du tronc familial le plus haut. Accueillez donc, Vémiche, dans votre cambrousse, la fibre la plus noble du bois le plus fin, j'ai nommé Elsa, meilleure de tous. » Les Vémiches virent alors arriver quatre soldats portant sur leurs épaules une chaise à porteurs ornée de rideaux. Un serviteur sonna du clairon, marqua une longue pause et écarta le rideau. Au moment où Ella fit un pas vers l'extérieur, les voyageurs firent un pas en arrière. Ils n'avaient jamais vu un personnage en bois comme Mademoiselle Ella Meilleure. Une cascade de plumes jaillissait de son chapeau. Ses lèvres et sa robe étaient d'un rouge éclatant. Elle portait des talons hauts et avait de longs ongles et portait autour du cou une énorme lettre M en or. Quelle chance vous avez que je sois passé par chez vous, dit-elle là. Bienvenue dans notre village, répondit le maire. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Oui, oui, répondit-elle. C'est un honneur pour nous. Oui, oui. Je vais vous présenter tous les villageois. Oui, oui. Elle n'écoutait guère ce qu'on lui disait, mais passait son temps à examiner attentivement chaque Vémiche qu'elle croisait. Elle examina le nez de l'épicier, puis l'oreille de son fils. Elle passa son pouce ganté sur la main du maçon et regarda longuement le front du peintre. Personne ne savait ce qu'elle recherchait, mais personne n'osa lui demander. Quand elle arriva devant Punchinello, elle se jeta en arrière avant même qu'il ne puisse toucher sa main. Le nez en l'air, elle ordonna en agitant la main « Au suivant ! Au suivant !» Stupéfait, Punchinello ne bougea pas et resta là à se poser des questions. « Mais bougez-vous ! » insista fermement le serviteur. Punchinello obéit. Puis ce fut au tour de Lucia, l'amie de Punchinello, qui s'attendait à subir le même traitement, mais la prestigieuse invitée la retint. « Juste ciel, mais que vois-je ? » commenta Ella admirative. « Quelle fibre délicate et quelle jolie teinte ! Êtes-vous en merisier ?» Lucia dut réfléchir avant de répondre « Oui. »« Quelle forêt ?»« Majestueuse, » répondit Lucia après avoir longuement réfléchi. « Alors nous sommes de la même famille. »« Vraiment ? Mais bien sûr ! Quel plaisir de trouver quelqu'un de mes racines ! Restez près de moi, nous bavarderons. » Lucia obéit et accompagna Ella dans la présentation des derniers vémiches. Entre deux salutations, elle glissait tout bas à Lucia des remarques comme « Pouah, quel bois noueux !» ou « Un bosquet très inférieur !» ou encore « Du mauvais côté de la montagne, c'est certain !» Une fois la présentation terminée, Punchinello demanda à Lucia « Ai-je fait quelque chose de mal ?»« Je sais pas, » répondit Lucia. « As-tu fait quelque chose de bien ?»« Je sais pas. » « Et pourquoi est-elle brutale avec certains vémiches et aimable avec d'autres ?»« Je crois que c'est à cause du bois dont ils sont faits. » Puis ils se séparèrent. Ella ne mit pas longtemps à sélectionner ses vémiches préférés pour le club des vémiches exceptionnels. Parmi eux se trouvait Lucia, ainsi que l'épicier et Madame le maire. « Les vémiches ne sont pas tous égaux, » déclara Ella. « Ceux qui sont faits de pain ou d'orme sont communs. » Alors que quelques-uns comme vous, taillés dans le merisier, sont de qualité. Et elle leur donna à chacun un M à porter autour du cou, parce que vous êtes en merisier, leur dit-elle. Puis elle ajouta, il y a même des vémiches qui sont en saule. Le saule est un bois faible, il se courbe, se blesse vite, ses racines sont peu profondes. Personne ne veut être un saule. « Vous connaissez des vémiches en saule ?» demanda Madame le maire. « En fait, il y en a un dans votre village, » répondit Ella. « Votre ami, » dit-elle à Lucia. « Punchinello ?» demanda Lucia. Et depuis ce jour, Vémicheville commença à changer. Les noyers méprisèrent les pins méprisèrent les ormes, les merisiers méprisaient tout le monde, et tout le monde méprisait Punchinello. Un jour, il voulut se rendre à une fête organisée par des vémiches en merisier, mais une pancarte sur la porte indiquait « Réservée aux souches royales ». Même Lucia voyait Punchinello de moins en moins souvent et prenait ses distances. Punchinello était très triste. Il alla se promener et s'assit au bord de la rivière, là où poussent les saules. « Mais pourquoi a-t-il fallu que je sois un saule ? » dit-il tout haut. Tu aurais préféré être quoi ? Le son de la voix le fit sursauter. Il se retourna et vit Ellie, son créateur. Un merisier, poursuivit Ellie. Tu aurais préféré être en merisier ? Punchinello ne répondit pas. À la fois triste et gêné, il baissa la tête. Ellie s'approcha et souleva d'un doigt le menton de Punchinello. Les autres vémiches sont meilleurs, lui dit Punchinello. Qui dit cela ? Demanda Ellie. « Mais tout le monde !» répondit Punchinello. Ellie secoua la tête. « Viens ici. » Tous deux marchèrent jusqu'à un saule et s'arrêtèrent. « Punchinello, d'après toi, qui en sait le plus, les vémiches ou le créateur des vémiches ?» Punchinello esquissa un sourire. « Le créateur ?»« Bien sûr. Ne crois-tu pas que je savais ce que je faisais quand je t'ai créé ?» « Tu es comme tu es parce que je t'ai créé ainsi et tu es précieux, mon enfant. Tu as choisi ma forêt ?
Oui.
Tu as choisi mon bois ?
Oui.
Le saule est tout aussi précieux que le merisier ?
Tout aussi précieux.
Alors pourquoi les autres me traitent-ils comme si je ne l'étais pas ? Voici quelqu'un à qui tu peux le demander.
Salut, Punchinello.
Cette fois, la voix était celle de Lucia. « Je suis désolé, j'ai trop écouté les autres, pas assez, Ellie. » Punchinello remarqua à ce moment qu'elle ne portait plus son pendentif en M. Lucia lui demanda, « Ça te dirait de retourner au village ? Aujourd'hui, ce sont les grands adieux pour Ella, meilleure de tous. Ah oui, ça, ça me plairait. Ils dirent au revoir à Ellie et se dirigèrent vers Rémy-Juive. Tout le village était venu dire au revoir à mademoiselle Ella, meilleure de tous. Celle-ci monta dans sa chaise à porteur et fit signe qu'elle était prête pour le départ. Les soldats levèrent la chaise à porteur et empruntèrent le pont qui enjambe la rivière. Elle se pencha à la fenêtre pour faire des signes de la main, mais elle se pencha un peu trop et commença à tomber. Sa chute fut stoppée par son médaillon qui s'était coincé dans la balustrade du pont. Paniqués, les Vémiges criaient « Aidez-la, sauvez-la !» Mais personne ne pouvait l'atteindre car ils étaient trop rigides pour se courber sous le pont. « Laissez-moi essayer !» hurla Punchinello. « Je suis fait en saule, je suis souple !» Sans attendre, il courut au bord du pont et s'assit dos à la rivière. « Saisissez mes jambes !» Les soldats obéirent. Punchinello se pencha en arrière, se recourba jusqu'à ce qu'il se retrouve la tête en bas. « Prenez ma main !» proposa-t-il à Ella. Cette fois, peu importa à Ella quelle espèce de bois elle touchait. Elle attrapa la main de Punchinello et s'y cramponna. En un rien de temps, Ella et Punchinello se retrouvèrent sains et saufs sur le pont, entourés de Vémiges. « Mais comment as-tu fait cela ?» lui demanda-t-on. « C'est facile quand on est fait avec le bon bois, » répondit Punchinello. Et pendant quelques minutes, personne ne souffla mot. Puis l'un des Vémiges en merisier s'avança vers Punchinello. Il ôta le M de sa chaîne et le retourna pour faire un W. « Ça suffit, toutes ces histoires de merisier. Soyons simplement des Vémiches. » Passant le W autour du cou, il ajouta « Tu es le Vémiche du jour ». À partir de ce jour, les Vémiches cessèrent de faire des différences entre les bois et décidèrent de redevenir simplement des Vémiches. Alors, excusez-moi, l'histoire est un peu longue et encore je l'ai raccourcie de moitié. Alors je m'adresse aux enfants, je suis sûr qu'ils ont bien écouté. Pourquoi Ella est-elle venue à Vémicheville ? Qui pourrait répondre ? Oui ? C'est ça, oui. Elle doit en choisir qu'un ?
Non, plusieurs.
Elle va choisir les meilleurs Vémiches. Et pour Ella, qu'est-ce qui fait qu'un Vémiche est meilleur qu'un autre ? On va essayer de donner la parole un peu à tout le monde. Oui ? Anna ? Alors, ceux qui sont faits en merisier, oui, sont considérés comme les meilleurs de tous. Et qu'est-ce que la venue d'Ella a changé dans le village ? Oui ? C'est ça. À cause de cette femme, eh bien, on commence à faire des différences entre les Vémiches. Et il y en a qui sont totalement méprisés. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans la vraie vie, est-ce qu'il arrive qu'on fasse des différences entre les gens ? Est-ce que vous auriez des exemples ? Oui ? Donc, c'est bien blond, t'as dit, la couleur des cheveux ? Oui. Est-ce qu'on fait d'autres différences entre les gens ? Il y a tellement de raisons qu'on ne sait pas par où commencer. Oui, Anna ? Alors, par exemple, à l'école, oui, à l'école, on fait des classements, on met des notes. Alors, il y a les bons, il y a les moins bons, il y a les cancres, enfin, dans la terminologie classique. Il y a des cancres qui réussissent très bien après aussi. Voilà, dans la vraie vie, il y a plein de raisons, de mauvaises raisons, de faire des différences entre les gens. Est-ce que vous vous rappelez qui est Élie dans l'histoire ? Oui ? C'est le Créateur. Et est-ce que lui, il fait des différences entre les Vémiches ? Et est-ce que tu peux nous redire dans l'histoire à quel moment on comprend qu'il ne fait pas de différence ? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit à Punchinello à ce moment-là? Il lui dit, c'est moi qui ai choisi le bois dans lequel je t'ai fait. Et donc ça m'amène à cette question, est-ce que Dieu, lui, fait des différences entre les hommes? Et alors là, j'ai une question très difficile pour les enfants, et peut-être aussi pour certains adultes, ou beaucoup d'adultes. Est-ce que vous auriez un verset pour justifier ça? D'abord, est-ce que Dieu fait des différences entre les gens? Alors, comment tu expliquerais ça? Tu sais pas. J'ai dit la question est vraiment difficile, hein, oui. Alors, oui. Le premier verset auquel on pense, c'est Jean 3,16. Et quel est le mot qui explique ça? C'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, pas telle ou telle ou telle catégorie de gens, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je pensais aussi à cet épisode où il est révélé à Pierre que les païens sont aussi appelés à entrer dans l'Église. Et où Pierre dit « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu... » N'avantage personne, c'est la traduction de la Bible en français courant. Voilà une première leçon pour nous. Dieu a voulu que nous soyons comme nous sommes et il nous aime tels que nous sommes. Alors, j'ai appris un peu tard qu'on aurait des musiciens que jusqu'à 10h30, donc on va en profiter encore pour chanter pour les enfants le chant « Si j'étais un papillon ». C'est peut-être pas très varié, mais j'ai pas fréquenté l'école du dimanche. Moi, j'ai pas un répertoire énorme dans les Gem Kids. Et dans ce chant, on dit qu'on remercie Dieu parce que tu m'as fait, moi. C'est le moment pour les enfants de rejoindre leur groupe respectif.
Est-ce qu'on peut faire sortir les ados en même temps comme leur groupe avec des mobiles ?
D'accord, donc on va demander aux ados aussi de rejoindre leur groupe. Qu'à l'occasion de ce chant, Meryl était retombée un peu en enfance. Elle a beaucoup pratiqué ce chant, dirait-on. Donc si quelques-uns nous ont rejoints un peu en retard, donc je vous rappelle que l'ordre du culte est modifié. On aura maintenant le temps de prédication qui sera suivi du temps de louange, puis de la scène et des annonces. Alors je ne vous rappellerai pas une fois de plus le contexte de 1 Corinthiens. Vous l'avez entendu plus d'une dizaine de fois, je crois, cette dernière année. Une urgence probablement. Donc, le but de Paul dans cette lettre, c'est de corriger des excès, des mauvaises conduites, notamment durant le culte. Certains membres de l'Église s'enorgueillissaient de savoir parler en langue ou d'avoir des dons de prophétie, et c'est ces deux aspects-là que David avait abordé particulièrement. Le côté spectaculaire de ces dons leur donnait l'impression d'être au désert supérieur, comme certains tirent gloire d'être en merisier. Dans le récit précédent, nous avons vu que cela entraînait des désordres, des jalousies, et chez les Corinthiens, de la confusion dans l'Église. Voyons dans une première lecture comment Paul répond à l'Église de Corinthe. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. C'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Jusque-là, pour l'instant, la lecture de la parole de Dieu. Paul va donc parler des différents dons au sein de l'Église. Et donc, on va commencer par se demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un don ? Le mot grec « charisma », qui est traduit par « don », provient d'un autre mot grec « charis », qui signifie « grâce ». On pourrait donc, comme Darby, lorsqu'on emploie le mot « don », ajouter « accordé par grâce, immérité ». Dans son commentaire de la première épître aux Corinthiens, dont je me suis beaucoup inspiré, Henri Briand cite René Pache, qui fut professeur à l'Institut biblique d'Emmaüs, qui définit ainsi un don. C'est la qualification donnée par l'Esprit à chaque croyant en vue du service dans le cadre du corps de Christ. Alors quand on dit dans le corps de chaque croyant, ça ne veut pas dire que tous les croyants ont les mêmes dons. La suite du message sera très claire sur ce sujet-là. Qualifier quelqu'un, c'est lui donner une qualité, une capacité à réaliser une tâche. Un don, c'est donc une qualité accordée par le Saint-Esprit en vue du bien commun et non pas pour en tirer un profit personnel ou s'enorgueillir. Revenons au texte. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il est clair qu'il y a une grande diversité de dons. Paul en mentionnera plusieurs par la suite, qui ont tous la même origine, le Saint-Esprit. Il n'y a donc pas raison de se diviser ou de se jalouser. C'est ça que Paul dit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. J'ai été frappé, en regardant ces trois versets, de voir la similitude dans la construction. Le mot « don » est ensuite remplacé par « service » et ensuite par « activité », du moins dans la traduction du semeur. Les dons sont attribués par Dieu dans le but de servir l'Église par leur mise en œuvre. Souvenons-nous de la parabole des mines, par exemple. Le maître reproche au dernier serviteur de n'avoir pas fait fructifier la mine qu'il lui avait confiée. De même, Dieu ne donne pas une qualification pour qu'elle reste inutilisée. Un premier point à retenir, me semble-t-il, c'est que Dieu donne à chaque membre de l'Église une ou des qualifications pour qu'il agisse, à chaque membre. Et Henri Briand fait cette remarque, « Se demander quel don nous avons reçu revient finalement à se demander, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se contente d'être spectateur le dimanche au culte et de regarder les autres faire des choses. Un chrétien, c'est normalement un acteur qui participe dans la mesure de ses moyens, on pourrait dire de ses dons, à la vie et à l'édification de l'Église. Chaque membre a un rôle dans l'Assemblée, chacun est utile. À l'image de Punchinello qui n'avait pas compris pourquoi il avait été taillé dans du bois de saule, jusqu'au jour où sa souplesse lui a permis de réaliser ce que personne d'autre ne pouvait faire. Pierre dit dans sa première épître, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, et je crois qu'il ne faut pas concevoir ce « un » comme limitatif, hein, au moins un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » On peut remarquer que certains dons sont permanents. Paul déclare par exemple que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère, que dès avant sa naissance, Dieu l'avait préparé et qualifié pour être apôtre et docteur de la parole. Ça, c'est une caractéristique de Paul qu'il va mettre en œuvre durant toute sa vie. Mais il y a aussi des qualifications que Dieu accorde seulement au moment où c'est nécessaire. Par exemple, Jérémie, qui avait été préparé par Dieu, mais qui le moment venu se sentait incapable de parler au nom de Dieu, et Dieu va lui répondre, « Voici, je mets aujourd'hui mes paroles dans ta bouche. » Croyons donc que Dieu va nous qualifier pour le service qu'il attend de nous et qu'il nous donnera, au moment opportun, le don adéquat. Il arrive aussi qu'un don ait besoin d'être renouvelé Nous sommes exhortés à persévérer. Ah, pardon, il fallait être un peu plus patient. Paul dira à Timothée, « Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. » Ça aussi, c'est une parole qu'on peut entendre. On est appelé à certaines choses, et puis nous ne sommes que des hommes et des femmes. Il y a des moments où peut-être on est moins en forme, on se laisse un peu aller, et Paul la rappelle Timothée à l'ordre en disant « Ravive le don que Dieu t'a fait. » Dans la suite du chapitre 12, Paul continue en donnant quelques exemples de dons. L'esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À un autre, le même esprit donne une parole chargée de connaissance. L'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. La liste que Paul vient de dresser n'est pas complète, loin de là. Elle est simplement adaptée au contexte des Corinthiens. J'ai trouvé nécessaire pour moi, en tout cas, de réfléchir et d'expliciter un peu sur certaines expressions, et j'ai un peu mieux compris certains de ces versets en lisant la traduction de paroles vivantes. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une parole de sagesse ? Dans paroles vivantes, il est dit « une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne ». On a quelquefois la tendance de chercher des dons spirituels et de s'imaginer que c'est forcément des choses un peu compliquées, un peu extraordinaires. Des conseils précieux pour la vie quotidienne. Ça peut être un don de Dieu que d'avoir une parole de sagesse à un moment. Une parole de connaissance est traduite par un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. J'espère que comme moi, vous avez croisé des gens qui, quand ils parlent, soudain, la parole paraît plus claire. C'est un don aussi. Parmi les dons mentionnés par Paul, il y en a un qui peut-être vous a étonné. Paul mentionne la foi. Alors, bien sûr, la foi, c'est un don. Romains 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Mais est-ce que tous les chrétiens n'ont pas ce don ? Pourquoi le mentionner particulièrement comme un don ? Que tous n'auraient pas. Mais je crois que l'explication, c'est qu'ici, Paul ne parle pas de la foi qui sauve. Si on n'a pas cette foi-là, on n'est pas chrétien. Si on ne reconnaît pas nos péchés, si on ne reconnaît pas le sacrifice de Jésus à la croix, on n'est pas chrétien, on n'a pas reçu la foi. Mais il y a des circonstances où on peut recevoir, pour prendre une image, une dose de foi supplémentaire. Dans Paroles vivantes, c'est traduit ainsi, un autre reçoit du même esprit une foi qui peut opérer des prodiges. On utilise quelquefois l'expression « une foi à déplacer les montagnes ». Eh bien, il y a des gens qui ont une foi à déplacer les montagnes. Je n'avais pas préparé, mais j'ai cet exemple qui me revient en tête maintenant. Je me souviens d'il y a, peut-être une quinzaine d'années, j'ai vu arriver un homme d'une trentaine d'années à l'époque, je crois, qui venait nous présenter son projet. Projet de foyer évangélique universitaire pour Lille, Pascal Herman. Cet homme est arrivé en disant, ben voilà, on veut faire un feu à Lille. Alors, ça nécessite tel fonds, on veut tel type de locaux, on a déjà prévu tel et tel type de personnes. Oui, ok. On a déjà réuni 40% du financement, le reste va venir. Et il s'est mis à chercher et tout. 2 ans après, il y avait un feu à Lille. Ça, c'est un homme qui marchait par la foi. Il avait une conviction. Il n'avait pas tout de suite les moyens de réaliser ce qu'il voulait. Mais par la foi, il a mis tout le monde en branle. Et 2 ans après, il y avait des locaux flambant neufs à Lille. Un autre exemple par excellence, Abraham, qui dit au moment du sacrifice d'Isaac, Dieu pourvoira lui-même pour l'Holocauste. Il a cette conviction et il y va. Nous avons besoin de foi à certains moments pour avancer. Et là où il y a une difficulté, c'est qu'il ne s'agit pas d'y aller la fleur au fusil en se disant « Dieu pourvoira ». Si vous prenez la route avec peu d'essence et que vous dites « Dieu pourvoira », il y a de fortes chances que vous tombiez en panne à un moment. Paul mentionne aussi d'autres dons, sans les citer tous. Il y en a un qui me paraît particulièrement utile en ce moment, c'est le discernement des esprits. Je ne sais pas vous, alors c'est peut-être l'âge aussi qui fait que j'ai l'esprit moins clair hein, qu'avant, ça... C'est même pas peut-être, c'est certain. Mais je trouve qu'on vit vraiment une époque où on mélange tout de plus en plus. Et on a vraiment besoin de discerner ce qui vient de Dieu avec cette parole de Paul qui dit que même Satan se déguise parfois en ange de lumière. Donc il y a des choses qui peuvent vraiment sembler être de l'or, comme le M majuscule, et qui n'en est pas, je veux dire, c'est de la tromperie. C'est l'apôtre Jean qui dit « Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. » Je crois qu'on peut être reconnaissant dans le temps de louange qu'on aura après aussi, de ce que Dieu nous a donné sa parole pour nous éclairer, pour nous guider, et on pourra aussi à cette occasion lui demander de renouveler en nous ce don de discernement. Si on continue dans le chapitre 12, on va voir que Paul utilise une image pour mieux se faire comprendre, qui est l'image du corps humain. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Paul décrit ici l'Église non pas comme une organisation, mais comme un organisme vivant dans lequel les membres sont attachés les uns aux autres et à Christ qui en est la tête. De la même façon que notre corps est constitué d'une multiplicité d'organes, mais font partie d'un seul et même corps, il y a diversité de dons, mais un même but, édifier l'Église. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Nous n'avons pas tous le même profil, nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses. Et Paul utilise des phrases un peu étonnantes quand même. Si le pied disait « je ne suis pas une main », vous imaginez votre pied qui dit à votre main « moi je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps ». Et si l'oreille se mettait à dire « puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'en faire partie? Ça, je pense que c'est pour les gens qui se disent « oui, mais moi je n'ai pas ça ». Non, mais tu as autre chose. Au lieu de voir ce qui te manque, regarde plutôt ce que tu as reçu. Si tout le corps était un œil, si tout le monde dans l'Église avait les dons qu'on généralement on aspire à avoir, eh bien si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment un seul corps. Vous allez dire, il insiste, hein, Paul, il se répète beaucoup. Il devait être dur à comprendre, les Corinthiens. Hein. Est-ce qu'on comprend plus vite qu'eux? C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Personne ne peut se passer des autres chrétiens. Un chrétien Robinson Crusoe sur son île, il doit être en grande souffrance. Cette image du corps nous aide à comprendre la diversité des dons, mais aussi leur complémentarité et leur nécessaire solidarité pour que le corps vive et fonctionne bien. C'est clair, un organe seul ne peut survivre. Il a besoin des autres organes. De même, nous avons besoin de l'Église pour alimenter notre vie spirituelle. Chaque organe a une fonction particulière. Chaque organe a son utilité. Même si en cherchant, il y a des moments où on se demande à quoi peuvent bien servir certaines choses. Je sais pas, on dit par exemple que l'appendice ne sert à rien. Alors, je ne vais pas entrer dans cette discussion-là, je n'ai pas les compétences. J'ai lu deux, trois choses avant de vous en parler. Bon, il paraît qu'il a une utilité, que c'est plus évident, mais d'autres disent qu'encore. Enfin bon, donc on ne va pas s'engager là-dedans. Mais quand même, la règle générale, c'est qu'on a des organes pour quelque chose, pour une bonne raison. Et Paul continue dans un passage un petit peu énigmatique. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Il y a des parties de notre corps auxquelles on ne pense jamais, jusqu'au jour où elles tombent malades. J'ai découvert que j'avais une hypophyse le jour où elle s'est mise à mal fonctionner. Et l'hypophyse, j'ai appris, c'est grand comme un petit pois. Ça fait que vous devenez frileux, ou... enfin bon, il y a plein de choses, je ne vais pas entrer sur mon cas. Mais bon, ça a des conséquences. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, je vous laisse imaginer de quels organes parle Paul, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Et ça, c'est une idée que je trouve importante. Dieu honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ? Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça change la perspective de notre vie actuelle, ça. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Aux Corinthiens qui se vantaient d'avoir des dons supérieurs aux autres, Paul oppose que tous les organes sont nécessaires et utiles au bon fonctionnement du corps. C'est nous qui avons tendance à considérer que certains dons sont plus importants que d'autres. Et dans une première lecture, on pourrait dire, mais Paul dit ça quand il dit au verset 28, « Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. » 1, 2, 3, c'est pas un classement ça ? Les dons mentionnés en premier sont ceux relatifs à la parole de Dieu. Je cite encore Henri Briand, « Ce qui édifie le croyant, ce qui le transforme pour le faire ressembler à Jésus-Christ, ce qui est vital pour la santé spirituelle du chrétien et de l'Église, c'est bien la parole de Dieu. » Et Paul, qui dit dans l'Épître à Timothée, la seconde, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais on peut aussi se dire que cet ordre 1, 2, 3, ben, ça correspond aussi à un ordre chronologique. Comment l'Église est-elle apparue ? D'abord avec des apôtres, des prophètes, etc. Ce sont eux qui ont fondé l'Église. Quoi qu'il en soit, tous les dons sont nécessaires à l'édification et à la bonne marche de l'Église. Paul continue au verset 29, « Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ?» Évidemment, non. Pour reprendre l'image utilisée par Paul, bien sûr, il y a des organes que nous appelons vitaux, parce que sans eux, la vie est impossible. Mais tous les organes contribuent au bon fonctionnement du corps. Et si vous avez l'impression quelquefois de ne servir à rien ou d'avoir un rôle vraiment pas important, bien, je crois que vous pouvez vous dire qu'il y a bien sûr les tâches qu'on voit, les tâches plus techniques dans une église, mais il y a tellement d'autres choses à faire. On peut tous prier les uns pour les autres. Et l'importance de la prière, ça vous paraît secondaire ? Ce n'est pas quelque chose qui se voit pourtant. Mais comme ça fait du bien, quand vous entendez quelqu'un vous demander des nouvelles en disant « oui, on a prié pour vous en cette circonstance ». On peut rendre une visite, rendre un service, prendre simplement des nouvelles, et pas une fois, mais dans la durée. On a tous croisé des gens qui vous ont demandé des nouvelles et qui manifestement, le dimanche d'après, ont oublié ce que vous leur avez répondu. C'est humain, ça nous est arrivé et ça m'est arrivé aussi probablement. Mais vous avez aussi des gens, vous vous rendez compte que quand ils vous demandent de vos nouvelles, ils écoutent, ils se souviennent, ils vous en reparlent les fois d'après, etc. Dans notre église du Nord, mes beaux-parents n'avaient aucune responsabilité officielle. Et pourtant, vous savez, à l'occasion des obsèques, beaucoup de gens viennent et vous disent ce qu'ils ont retenu des défunts. Et c'était pratiquement tout le temps les mêmes phrases. Ils venaient régulièrement demander de nos nouvelles. Ils étaient bienveillants, attentifs aux autres. Et puis, on voyait qu'ils nous écoutaient. L'empathie, la compassion sont des dons qui créent du lien entre les membres de l'Église. Ce ne sont pas des petits dons, ce n'est pas des choses spectaculaires qui se voient, mais elles sont ô combien importantes. Paul termine ce chapitre 12 par ce verset. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, ou dans parole vivante, celle qui surpasse toutes les autres. Et 1 Corinthiens 13, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'hymne à l'amour. Je vous propose simplement de vous laisser relire 1 Corinthiens 13, je ne sais plus si c'est sur une diapo ou deux, auquel cas je laisserai la première assez longtemps. Et je pense que là, on a vraiment un sujet de louange pour Dieu. Il nous a fait tels que nous sommes parce qu'il a un but précis. Et deuxièmement, il nous aime de l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Oui, je vais vous le lire parce que c'est sur plusieurs diapos. En supposant que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu est plein de bonté. L'amour de Dieu n'est pas envieux. Dieu n'a pas cherché à se faire valoir. Jésus-Christ n'est pas venu pour se faire valoir. Jésus-Christ ne s'est pas enflé d'orgueil. Il n'a rien fait d'inconvenant. Il n'a pas cherché son propre intérêt. Il ne s'est pas aigri contre les autres. Il n'a pas tramé le mal. L'injustice l'a attristé. La vérité le réjouissait. En toute occasion, l'amour, Dieu, pardonne, fait confiance. En toute occasion, Dieu espère. Dieu espère en nous. Alors que nous, on désespère de nous à certains moments, Dieu continue d'espérer. L'amour persévère. L'amour n'aura pas de fin. Merci Seigneur, parce qu'à travers tous les dons que tu dispenses, tu prends soin de chacun de tes enfants et de ton Église. Merci pour tous les dons dont nous sommes au bénéfice. Merci de nous avoir rappelé à travers l'histoire de Punchinello et l'image du corps utilisée par Paul que nous avons tous notre utilité parce que tu l'as voulu ainsi, de nous rappeler à l'humilité et de nous rappeler qu'il n'y a aucune raison de nous glorifier de ce que tu nous donnes, mais que tous ces dons concourent à la bonne marche de ton Église et à notre sanctification. Merci aussi pour ton amour, un amour qui dépasse notre compréhension. Toi qui de tout temps étais Dieu, tu t'es dépouillé, tu as pris la condition d'un homme, la condition d'un serviteur. Tu t'es abaissé jusqu'à la mort sur la croix pour nos péchés. Et Seigneur, je veux te dire ma reconnaissance et ma louange aussi pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Je vous invite donc à entrer dans ce temps de louange et à ne pas proposer de chant pour une fois.